Profitez avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Le festival Écran Noir qui fête cette semaine son 20e anniversaire à Yaoundé au Cameroun, un festival qui se veut au service du 7e art camerounais et africain. Cette année, 58 films sont en compétition. L'occasion pour nous ce matin de vous donner la parole, de dresser ensemble un état des lieux de la production sur le continent africain, d'autant que les aides publiques sont de plus en plus rares, tout comme les salles obscures qui disparaissent malheureusement les unes après les autres pour laisser place souvent à des lieux de culte ou à des grands magasins. D'ailleurs, si on prend l'exemple du Cameroun, où se tient en ce moment le festival Écran Noir, dans les années 70, le pays disposait de 32 salles. Aujourd'hui, tenez-vous bien, on n'en compte qu'une seule. Elle a d'ailleurs été inaugurée le mois dernier. Alors, si vous êtes cinéphile, rejoignez-nous, appelez-nous ici à Paris. Dites-nous ce qui est fait finalement dans votre pays pour promouvoir le cinéma et principalement le cinéma africain. Quel regard portez-vous sur la production du continent? Une production certes éclectique, allant du cinéma d'auteur à la production nigériane qu'on appelle le Nollywood, qui peut prêter à sourire, j'imagine, chez certains de nos auditeurs. Mais en même temps, ce cinéma nigérian est tout de même la deuxième production mondiale de films. Chaque année, plus d'un million de films sont réalisés au Nigeria, souvent avec des histoires, me direz-vous, à l'eau de rose. Mais tout de même, ça fait partie aujourd'hui de ce cinéma africain. Vous nous appelez 33 9 693 693 70, 09 693 693 70. Si vous nous appelez de France, vos réactions également sur les réseaux sociaux, je lirai quelques quelques-uns de vos commentaires dans un instant. Je suis en train de vous parler, de lire le commentaire de Fatou, qui est étudiante de cinéma UCAD, de ciné-UCAD. Elle fait des études de cinéma à l'université Cheikh Ould Tadiab de Dakar. Elle souhaite témoigner, mais elle a oublié de nous envoyer son téléphone. Donc, si vous nous écoutez, Fatou, envoyez-nous un téléphone ou appelez-nous et on vous donnera la parole, car vous faites partie de ces rares étudiants au Sénégal qui étudient donc le cinéma et qui voudrait plus tard devenir réalisatrice. Diafodoye, bonjour. Vous nous appelez, vous, de Bobo-Dioulasso. Soyez le bienvenu.
Oui, bonjour.
Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, pays du cinéma, évidemment, avec le FESPACO.
Oui, effectivement, Burkina Faso est considéré comme la capitale du cinéma africain à travers, effectivement, le FESPACO. Mais comme vous l'avez dit, il faut reconnaître que le cinéma burkinabé, comme africain de façon générale, connaît pratiquement les mêmes problèmes. Et vous l'avez si bien souligné avec la disparition des salles de ciné. Je prends précisément le cas de la ville de Bobo où il y a un bon temps, on avait 5 salles de cinéma qui fonctionnaient. Et alors que la population n'était pas aussi grande que ça, aujourd'hui la ville fait presque 1 million d'habitants. Mais malheureusement, on n'a pratiquement plus de salles. Il n'y a qu'une seule salle de ciné, le Ciné Saint-Yon, qui sert beaucoup plus aujourd'hui à d'autres activités, beaucoup plus à des conférences et autres concerts, ouais, qu'à la réalité, à des projections de films.
Diafodé, le réseau se dégrade avec Bobo-Dioulasso. On va essayer de vous rappeler, surtout que vous souhaitiez nous parler, vous, d'un chantier qui est en cours, la réhabilitation d'une des salles mythiques de Bobo-Dioulasso, salle qui a d'ailleurs donné envie à des hommes comme Gaston Caboret et Danny Couillet de devenir cinéastes, et on sait ce qu'ils sont devenus aujourd'hui puisqu'ils font partie des grands réalisateurs du Burkina Faso et du continent africain. On va essayer de vous rappeler évidemment Diafodé dans un instant. Au standard, Sori, bonjour.
Bonjour Anne, alors, bonjour à vos auditeurs.
Vous êtes très dur à l'égard de la télévision, vous dites que la télé a tué le cinéma en Afrique.
Conakry, en tout cas, le cinéma, c'est devenu un souvenir lointain. On se rappelle encore de ces moments qu'on pouvait passer ensemble dans les salles de cinéma, notamment les week-ends, avec des amis, des collègues ou la famille. Mais ça, c'est devenu un souvenir lointain vraiment en Guinée.
Pourquoi? Que s'est-il passé, Sori?
Aujourd'hui, pratiquement, d'abord, les salles sont devenues des grands magasins de distribution, donc pas de salles. Deuxièmement, l'avènement de la télévision numérique, la TNT et les DVD bon marché ont carrément transformé le cinéma qu'on passait en équipe, en famille, dans les salles, à des cinémas de salon. spectacle, quelques films au salon, puis on regarde la télé. C'est fini.
C'est fini, ouais.
C'est dommage pourtant, parce que la Guinée, par exemple, recèle d'énormes talents en matière de culture. Si on se rappelle du cas de Doucouré et de Sekou Fantamadi, qui sont de bons artistes, si l'État faisait un peu d'effort envers ces artistes, à mon avis, on pouvait redorer le blason, parce que la culture peut être un vecteur de cohésion sociale, ouais, mais aussi un vecteur d'affirmation de l'identité culturelle du continent africain.
Ouais. C'est un peu ce que nous dit Keïta Alpha sur la page Facebook de l'émission. Il est guinéen et il regrette cette époque où la Guinée était parmi les pays qui faisaient la fierté du continent africain sur le plan cinématographique. Et il ajoute que depuis la fin du régime Sékou Touré, le cinéma a vu son déclin en Guinée-Conakry. Aucun des dirigeants qui se sont succédés n'a mené de véritables politiques culturelles. Vous partagez cette approche?
Moi, je dirais d'ailleurs que c'est toute la dimension culturelle de la Guinée, la dimension folklorique, qui est carrément parti avec la Première République. Mmh. Parce que si vous prenez les grands groupes musicaux guinéens, le Bembe Azaz National, le Oroya Band, la grande valeur que ces groupes avaient sous la Première République, aujourd'hui ça n'existe pratiquement pas. Ces groupes, même s'ils existent de nom, mais ils n'ont plus une renommée, même nationale, à plus forte raison internationale.
Bon, parlons cinéma.
Et ça, c'est parce qu'il n'y a eu aucun effort envers la culture en général et le cinéma en particulier.
Merci Sori de nous avoir appelé. Je vous interromps. Il pleut à verse en ce moment à Bobo Dioulasso. On va essayer de rétablir la connexion avec Diafodé. Vous êtes avec nous, Diafodé?
Oui, je suis là.
Voilà, on vous entend mieux que tout à l'heure. Et vous souhaitiez nous parler de la réhabilitation donc d'une des plus grandes salles de cinéma de Bobo Dioulasso?
Oui, effectivement, il s'agit de la salle du Ciné Guindy, qui est en réalité qui porte le nom de la princesse Guindy Ouattara, l'une des grandes guerrières de la région des Bobo. Effectivement, cette salle était abandonnée comme les 5 autres salles de la ville des Bobo. Et avec l'association de soutien du cinéma au Burkina Faso, dirigée par Bernie Goldblatt, et cette mythique salle est en train de sortir de terre aujourd'hui. Donc, depuis 3 ans, il y a un réseau de soutien international qui a été initié autour de ce projet. Et ce réseau se passe à travers plus de 50 festivals de films dans le monde. Et à commencer par le FESPACO, notamment on peut citer aussi le festival de Namur et même le festival de Cannes. Donc aujourd'hui, effectivement, le chantier est en train de pousser. Le budget est réuni à presque environ 50%, et l'ouverture est prévue pour fin 2016.
Mais vous avez l'air bien informé, Diafodé. Vous faites partie du projet ou vous êtes simplement un cinéphile et que vous attendez avec impatience la réouverture de l'unique salle de Bobo Dioulasso?
Oui, je suis dans le monde de la culture à Bobo.
Ah,
et
d'accord.
Je suis activiste, donc effectivement, c'est un projet qui nous tient à cœur tous à Bobo ici. Et chacun, à sa façon, essaie d'apporter sa petite contribution. Parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se battent au Burkina et à Bobo pour la renaissance du cinéma de façon générale. Mais les conditions sont très, très difficiles. Mmh. Et on se dit que la renaissance vient d'une salle de ce genre, qui est beaucoup plus un projet à caractère éducatif, culturel et social et solidaire, peut effectivement aider le cinéma et la culture de façon générale à retrouver quand même ses valeurs d'antan.
Merci Diafodé. Merci. Je vous interromps, il y a du monde qui souhaite prendre la parole, moins que lorsqu'on lance le débat, je ne vous le cache pas, sur la Cour pénale internationale et l'Union africaine, mais il y a des cinéphiles qui nous appellent et qui souhaitent évidemment s'exprimer. C'est le cas de Joseph. Bonjour.
Bonjour Juan Gomez.
Vous êtes à Yaoundé. Bonjour. Au Cameroun, où se déroule d'ailleurs le festival Écran Noir depuis vendredi dernier. Vous souhaitiez nous parler du cinéma dans votre pays?
Oui, exactement. Je crois que, en tant de mes prédécesseurs, le problème en Afrique est généralisé. L'on se rend compte que après les premières républiques, les nouveaux dirigeants ne sont pas venus avec une véritable politique culturelle. Parce que figurez-vous, dans le cinéma, il y a l'identité culturelle de tout un chacun que l'on peut retrouver. Vous rendez par exemple compte, je vais vous prendre un exemple, avec la série 24 heures chrono, qui nous a préparé à avoir un président noir aux États-Unis.
Et série américaine, c'est une série américaine.
Oui, dans cette même série américaine, on nous a également préparé qu'après le président noir, ce sera une présidente femme. Je crois que c'est ce qui est en train de se réaliser. Mais par contre, chez nous en Afrique, les gens ont laissé le cinéma dans une situation où les acteurs sont obligés de se débrouiller avec les moyens du bord. Ils sont obligés de se battre par eux-mêmes, parfois avec des matériels vraiment de basse qualité. Parce que figurez-vous...
Mais Joseph, excusez-moi Joseph, j'entends bien et je vous écoute attentivement, mais quel rapport entre les difficultés que peuvent avoir effectivement les metteurs en scène, les réalisateurs, les comédiens à exercer correctement leur travail sur le continent africain et la série 24 heures, puisque vous avez commencé en citant cet exemple?
Oui, je fais un rapport là, c'est au niveau de l'identité culturelle. Et puis maintenant, au niveau africain, bon. Je vais revenir en vous disant par exemple, à l'université mère du Cameroun, Yaoundé 1 de Ngouaïkélé, où il a fallu que tout un industriel français vienne offrir une salle de cinéma alors que tous les autres étaient pratiquement fermés déjà. Vous arrivez dans une université comme celle-là, où on apprend à faire du cinéma, la comédie, les arts en général, mais un enfant ne sait pas, il n'a jamais eu devant lui une caméra professionnelle. Il ne sait pas comment est-ce qu'on fait des prises de son. C'est généralement des cours théoriques qui se font. Par contre, avec le contexte américain ou occidental, où on trouve des écoles véritablement où on apprend à faire le cinéma sur le double plan théorique et le double plan pratique.
Ouais. Vous êtes dans le cinéma, Joseph ? Vous êtes dans le cinéma ?
Non, je suis un cinéphile.
Ah, vous êtes cinéphile, d'accord. Non, parce que vous en parlez très bien et on voit bien que vous êtes connaisseur. L'unique salle aujourd'hui au Cameroun, vous le disiez, elle a été inaugurée dans une université à Yaoundé. Vous parliez d'un investisseur français, il s'agit de Vincent Bolloré, pour ne pas le citer. Et effectivement, il a comme projet d'ouvrir des centaines de salles de cinéma sur le continent africain. Joseph, merci de nous avoir appelés. Oui. Je sais que j'aurais pu vous laisser l'antenne jusqu'à la fin de l'émission, mais voilà, d'autres auditeurs souhaitent prendre la parole également. Idrissa, par exemple, il est en Côte d'Ivoire. Bonjour Idrissa.
Bonjour Gomez.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Bon, lorsque j'entends parler mes prédécesseurs, je sens que c'est le même problème partout. C'est une démission totale vraiment des différents régimes qui sont succédés à la tête de nos États. Parce que, savez-vous que quand les ministères des cultures des différents pays font leur programme, ils ne parlent jamais du cinéma. Avant, en Côte d'Ivoire, il y avait une culture de proximité. Qui veut, par exemple, vous trouvez un quartier donné, vous pouvez trouver au moins deux salles de cinéma dans un quartier. Et donc, ça permettait aux gens facilement d'aller dans les salles de cinéma. Aujourd'hui, tout a été privatisé. Il n'y a plus rien. Habitant de compte que deux salles de cinéma.
Oui, j'allais vous dire, il y a encore une ou deux salles de cinéma, notamment une au Plateau, ça j'en suis sûr, quartier du Plateau.
Oui, oui, oui. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, pour quelqu'un qui habite par exemple à Niama, pour qu'il vienne regarder un film, il va falloir débourser au minimum 10 000 francs. Pour cliquer, aller et le transport et tout. Donc tout ça, ça n'amène pas vraiment les gens à se tourner vers le cinéma. Et puis en plus, comme le disait mon prédécesseur, aujourd'hui, les CD bon marché piratés que les gens vendent au bord de la route. Les États ne font absolument rien pour enrayer ce fléau. Et ça tue le cinéma.
Ouais. Ça tue vous dites que ça, les DVD piratés vendus au bord de la route tuent le cinéma, certes, mais est-ce qu'on vend des DVD de films africains, ou est-ce que ce sont généralement des films produits au Nigeria ou des séries brésiliennes ou indiennes qui ont un immense succès sur le continent africain?
On voit un peu de tout. On voit un peu de tout. Et moi, je pense que l'État a un rôle éducatif. Quand vous prenez la télévision nationale, rarement ils nous présentent des films africains. Bon, dans ce cas, comment vous pouvez comprendre qu'on puisse parler d'une discipline si l'État même n'en fait pas la promotion?
Ouais. Il faut aller au cinéma. Il faut aller au cinéma. Nous sommes tous d'accord. Il faut que les salles de cinéma vivent. Sinon, il y a des plateformes. Il y a des plateformes numériques. C'est aussi ça le progrès, qui propose des films africains. Il y en a plusieurs. Il y en a une qui a notamment été fondée par un Nigérian. Et elle compte à elle seule plus d'1 million d'abonnés payants en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Et cette plateforme, on va citer son nom, Iroko TV, s'est imposée comme étant le plus grand distributeur de cinéma africain sur le web aujourd'hui. Et puis, il y a d'autres plateformes qui existent. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que la majorité de ces plateformes ont été créées par des Africains, des plateformes qui proposent évidemment des films. On me dit que Francky nous appelle de Paris. Bonjour Francky.
Bonjour Juan.
Vous êtes congolais, vous souhaitez nous parler de l'importance du cinéma dans votre pays d'origine.
Voilà, je suis congolais de Kinshasa, puisqu'il y a deux Congos, en RDC. Alors moi, je profite de cette opportunité pour rappeler l'importance du cinéma dans un pays comme le nôtre et dans les pays africains. Il faudra que nos autorités puissent promouvoir ce secteur qui peut participer à beaucoup d'histoires dans nos pays où nous avons besoin de connaître notre identité pour faire développer nos pays par rapport à nos priorités. Pas faire du copier-coller qui vient d'ailleurs et les ramener chez nous. Rappeler aussi que le cinéma est un métier à part entière qui mérite d'être encouragé parce que dans notre pays, quand quelqu'un, je dois vous le dire, dit qu'il est cinéaste comme ça, il est dans une certaine mesure négligé. Alors que les autorités puissent favoriser, mettre des moyens pour ces secteurs et aussi que d'autres acteurs qui participent à ce secteur du cinéma puissent y participer véritablement pour renchérir avec les propos de celui qui m'a précédé, le camarade de tout à l'heure. Une série comme 24 heures chrono, un film qui vient de l'Amérique ou je ne sais moi de quel pays, passe gratuitement en boucle et sur toutes nos chaînes. Quand ce sont des films du Congo produits par des Congolais, il faut payer. Vous avez été reçu, j'ai suivi votre émission à la Halle de la Gombe, à l'Institut français de Kinshasa.
Oula, c'est vieux, c'était il y a 4-5 ans.
Il y a 4-5 ans, j'y étais pour participer.
Ah, très bien.
C'est cet institut qui sert pratiquement pour des festivals de films. J'ai des amis, notamment Emmanuel Loupia et son ami Chopper, qui ont fait le Festival international du film de Kinshasa, qui vient de finir il y a quelques jours. Mais nous avons une salle de cinéma chez nous là-bas, Mongita, qui est inexistante. Que les autorités mettent un peu de moyens, agissent et que tous ces jeunes qui s'investissent pour le cinéma, nous on est derrière eux, je signale que moi je suis médecin de formation et je travaille au ministère de la Santé, mais je reconnais la part du cinéma. On a de valeur. Un de vos collègues, professeur Elitia Mbokolo, que vous connaissez certainement.
Évidemment qu'on écoute toutes les semaines sur l'antenne des RFI.
Elitia Mbokolo est en train de présider le comité de la réécriture de l'histoire générale d'Afrique de l'UNESCO.
C'est vrai.
Il a dédié toute une histoire en boucle, mémoire d'un continent, pendant une année. Elikia Mbokolo a été président d'honneur du FESPACO à Ouagadougou, qui est la référence pour l'Afrique. Mais Elikia Mbokolo, qui est du Congo, il n'y a pas de piste qu'il peut soutenir et qu'il peut promouvoir jusqu'à quand le Congo ne va pas bénéficier de ses propres valeurs.
Mais vous parliez tout à l'heure de la Halle de la Gombe. Heureusement, effectivement, que ces instituts existent pour projeter des films. Vous savez que le Festival Écran Noir, qui se déroule en ce moment à Yaoundé, projette ses films à l'Institut français, à l'Institut Goethe, au Centre culturel camerounais, à la salle Citabella. Voilà, parce qu'il n'y a pas de salle de cinéma. Et effectivement, c'est un vrai problème. Merci de nous avoir appelés. Désolé pour Léonard, Mathias, Abdoulaye, Mohamedou, Souleymane, qui d'autre sur l'écran. Mathias, voilà, j'ai déjà cité. On aura peut-être certainement l'occasion de reparler de cinéma prochainement. Et pourquoi pas d'ailleurs vendredi dans la Libre Antenne. Demain, nous parlerons du Mali après l'attaque hier d'une base de l'armée dans le centre du pays. Le bilan, vous le savez, est lourd. 17 soldats ont été tués, 35 blessés. Il semblerait que les assaillants soient revenus ce matin dans cette même base. Le gouvernement, en tout cas, dénonce, lui, une opération terroriste coordonnée. Comment expliquer, finalement, l'ampleur de cette attaque? Y a-t-il eu défaillance de la part de l'armée? Pourquoi l'armée a-t-elle été dépassée? Et vous nous direz également quelle doit être la réponse du gouvernement malien. On vous attend, évidemment, au standard. L'équipe est là tout au long de la journée. On réceptionne vos appels 33 9 693 693 70 et nous vous attendons également sur les réseaux sociaux. À suivre juste après le journal, Priorité Santé. Ce matin, Clarédon vous propose une rediffusion. Comment faciliter l'accès à la vaccination dans les pays à faible revenu? Bonne journée à tous. Merci de votre fidélité. À demain.
Autour de la question.